Bonjour et bienvenue dans le 56e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc mes problématiques, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture, mais pas que. Mon tout premier roman, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est L'Inde de Souraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai suivi un atelier d'écriture dans le cadre duquel j'ai été accompagnée par une éditrice. Dans cet épisode, je vous parle de retour critique, d'intensité dramatique, de points de non-retour, de bêta-lecture, de pause, de coupe, de fin, de pression, du métier de biographe, de dramaturgie, d'incidents et d'événements déclencheurs, de la nécessité d'un personnage, de binôme d'écriture, de high concept et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en novembre 2023. Bonne écoute à vous. Le jeudi 16 novembre 2023. Hier, j'écoutais le dernier podcast de l'école Les Mots, Assez Parlé, avec une autrice dont je ne me rappelle plus le nom, mais dont je vous mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode. Et elle disait que, à son premier envoi de nouvelles à un concours, elle avait reçu un retour hyper violent sur ce qu'elle avait écrit, hyper critique et négatif, qui l'avait beaucoup perturbée, qui l'avait complètement bloquée dans son écriture. Il faut faire vraiment très très attention de ne pas faire ce genre de retour parce que le but, c'est pas de couper des aspirants écrivains dans leur élan. C'est tellement difficile d'écrire, on met tellement de soi que quand on reçoit des critiques, forcément, on se remet en question nous-mêmes. Donc, il faut faire très très attention à ce qu'on dit parce qu'on peut couper les ailes d'un auteur débutant. Même moi, je pense que des fois, j'ai fait des retours trop détaillé, par exemple, pour quelqu'un qui n'était pas prêt à les accepter. Et ça, c'est pas bon non plus. Même si c'était dans le but de l'aider, s'il y a trop de choses et que l'autre n'est pas prêt à l'entendre, je vais l'assommer. Ça va lui paraître une charge de travail tellement énorme qu'il sera découragé. Il faut arriver à cerner où en est la personne que l'on lit, à quel stade elle en est dans son cheminement d'écriture. Le vendredi 17 novembre 2023. J'étais très contente de la scène que j'avais ajoutée hier, qui est une scène que j'ai écrite récemment, qui concerne la relation entre les deux sœurs. Le problème, c'est que si je garde cette scène, il y a forcément des conséquences dans mon histoire que je devrais développer. Et là, je suis un peu bloquée parce que j'ai l'impression que ça me rajoute toute une ligne narrative que je n'avais pas vraiment prévue et qu'à nouveau, il me faut creuser mon texte et repartir en arrière. Alors bon, je sais pas trop si j'ai envie de la garder du coup, parce que ça me rajoute du travail. Alors c'est pas par fainéantise, hein, c'est juste que je me dis si j'arrête pas d'ajouter des choses et qu'à chaque fois il faut tout que je retravaille, j'arriverai jamais au bout de ce texte. Et là le but c'est quand même d'aboutir un texte. Donc à un moment il faut aussi que j'arrive à me réfréner. Je vais réfléchir en m'enregistrant. Peut-être que je pourrais partager des bouts de ma réflexion avec vous. J'aime beaucoup cette scène parce que cette scène est forte en intensité dramatique. Elle crée une vraie tension. On comprend vraiment quel est le rapport qu'entretiennent les deux sœurs. Elle va assez loin et c'est un peu un point de bascule. C'est-à-dire qu'après cette scène, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça que j'aime bien. Elle est violente en plus. Ça crée un petit rebondissement qui va au-delà des amourettes d'Apolline, et ça fait du bien, une scène un peu forte comme ça dans le démarrage de mon texte. Jusqu'à présent, c'était plutôt léger. D'un coup, là, il y a une gravité avec cette scène. Enfin, léger, plus ou moins, parce que bon, avec ce qui se passe au démarrage, c'est pas si léger que ça. Le samedi 18 novembre 2023. Hier, j'ai finalement eu mon rendez-vous avec ma binôme d'écriture. Ça s'est plutôt bien passé. En fait, mon texte ne se lit pas de façon morcelée, ce qui fait que on rentre tout de suite dans le détail, alors que moi, j'aurais plutôt besoin, dans un premier temps, d'avoir des retours sur sa structure globale pour savoir si ça me fonctionne dans la continuité. Et là, comme on s'envoie chapitre par chapitre, c'est un petit peu difficile d'avoir ce point de vue-là. Ce matin, j'ai voulu réfléchir aux conséquences de la scène que j'ai ajoutée récemment, que j'aime beaucoup, cette scène de haute tension dramatique. Donc j'ai un peu réfléchi à ça, et j'avoue que je ne trouve rien. Et que ça me demande un énorme travail, cet aspect-là, en m'éloignant de la thématique principale que j'ai envie de traiter dans ce texte. Ce qui fait que je vais revenir à une version antérieure, je vais supprimer cette scène, enfin je vais la retirer en tous les cas de la version sur laquelle je suis en train de travailler. Et peut-être qu'il y a des choses qui s'éclairciront plus tard par rapport à cette scène. Peut-être que je saurai où la placer et quelles vont être les conséquences. J'ai repris mon rétro-planning, donc là je suis bien en retard parce que j'étais censée envoyer mon texte en bêta-lecture le 20 novembre. Bon, on est le 18, hein, j'ai toujours pas fini mes corrections et ma propre relecture, donc je me laisse encore 2 semaines pour ça. L'idéal, ce serait que j'envoie mon texte en bêta-lecture pour le mois de décembre, parce que comme je vais partir 3 semaines en vacances, je vais pas forcément être dans des bonnes dispositions pour travailler mon texte, donc ça serait le timing parfait pour faire une pause dessus, tout en le faisant relire en bêta-lecture. Cette fois, je pense que je vais faire part de mon souhait d'une temporalité de bêta-lecture. C'est pas un texte qui prend beaucoup de temps à lire, hein. Donc je pense qu'un mois, un bêta-lecteur a largement le temps de le lire. J'ai 3 bêta-lecteurs potentiels. La question que je me pose, c'est est-ce que je leur envoie tous au même moment ou est-ce que j'en garde un pour plus tard dans une autre étape de réécriture ? J'hésite un peu, mais après ça peut être intéressant d'avoir 3 bêta-lecteurs pour cette étape parce que je suis quand même déjà bien avancée. Comme ça, j'aurai 3 retours différents. Bon, pourquoi pas. Et puis bon, en plus de ça, j'ai bien compris qu'il y a des gens qui, au début, sont hyper partants pour lire nos textes, et puis en fait, en cours de route, ils ne répondent plus. En même temps, je comprends, parce que l'Inde de Souraj, je sais que c'était pas une mince affaire à lire, que ça manque de tension dramatique. Donc ce qui fait qu'il y a certains lecteurs qui abandonnent en cours de route. Hein. C'est un bon indicateur, d'ailleurs, quand un bêta-lecteur finit par ne plus donner de nouvelles, c'est que... Il y a quelque chose qui ne va pas dans le texte, hein. On ne sait pas quoi, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois pour l'Inde de Souraj. On va voir si c'est le cas pour l'essai comique. Je m'arrête là pour ce matin, il est 8h30. J'ai pas beaucoup eu le temps de travailler, mais je suis en plein déménagement, donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je vais essayer de travailler encore un peu dessus demain. Déjà, c'est bien si j'arrive à voler 1 heure de mon temps pour continuer mon écriture. Je reprendrai des séances un peu plus longues quand on aura déménagé et qu'on se sera installé. C'est-à-dire, à mon avis, en janvier, hein, parce que là, les prochaines semaines vont être assez chargées. J'ai des allers-retours à Paris, j'ai mon 2e module pour ma formation de biographe, je pars en vacances pendant 3 semaines, puis bon, il y a les fêtes de fin d'année, tout ça, enfin voilà, ça va être très très chargé ces prochaines semaines. Donc à mon avis, j'aurai pas beaucoup le temps de me consacrer à l'écriture.
Le mercredi 22 novembre 2023. En ce moment, je me questionne sur le temps de mon roman L'essai comique. Est-ce qu'il ne serait pas mieux au présent ? Donc depuis hier, j'ai commencé à retranscrire au présent pour voir ce que ça donnait. Et j'avoue, j'aime assez. C'est assez déstabilisant parce que du coup, ça fait que mon personnage n'a plus du tout aucun recul sur ce qu'elle est en train de vivre. Je me demande si ça fonctionne. D'un autre côté, j'ai l'impression que ça rajoute de la tension dramatique. Mais comme elle réagit pas plus que ça, enfin elle réagit un peu, mais pas plus que ça à un événement qui vient de se passer, qui est quand même assez grave, je me demande s'il faudrait pas du coup que je travaille ça plus en profondeur. Et surtout, est-ce que ça va pas me rajouter un énorme travail de tout remettre au présent. Bon, si ça marche mieux, hein, ça vaut le coup. Hein. Mais si en plus ça me demande de retravailler sur le ressenti de ma protagoniste principale parce que forcément elle vit pas les choses de la même manière si elle les vit au présent que si c'est quelque chose qui est passé, ça risque de me demander quand même beaucoup de travail qui n'était pas forcément prévu dans mon rétro-planning. Je laisse cette question en suspens. Là, de toute façon, j'ai retranscrit mes 4 premiers chapitres. Et j'arrive au chapitre 5, qui est un chapitre que je dois complètement retravailler, qui est le dernier chapitre que j'avais envoyé à ma binôme et qui m'a fait retour plutôt assez critique sur ce chapitre. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnait pas. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai pas le temps de faire beaucoup plus. Le lundi 4 décembre 2023. Je suis toujours en train de travailler sur l'essai comique, je m'apprête à faire une pause à partir du 13 décembre pour le reprendre avec un œil neuf à la rentrée de janvier. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris ce temps-là et je pense que ça ne peut être que bénéfique. En ce moment, je retravaille mes chapitres pour essayer de les réduire à 12 000 signes selon les conseils de l'éditrice. Et je suis assez contente parce que à force de retravailler mes chapitres, des fois ils font 20 000 signes, hein, mais à force de repasser dessus, je finis par atteindre les 12 000 signes. Ça m'oblige à aller à l'essentiel. Alors il faut que je fasse plusieurs passages, hein. Bon, aujourd'hui, je ne m'enregistre plus pour les retravailler, parce que c'était quand même un travail long. Même s'il a prouvé son efficacité, ça restait pas très productif. Donc là, en fait, chaque jour, je reprends un chapitre antérieur qu'il faut que je raccourcisse encore. Et à chaque passage, j'arrive à enlever des fois 1000 signes, mais des fois, c'est que 100, 200, 300 signes. À force de repasser dessus, j'enlève toute la graisse. C'est vraiment hyper bien de faire ça et ça me fait pas trop mal au cœur. De toute façon, je ne jette rien. Hein. Tout va rejoindre mon document passage coupé. Donc si jamais j'ai un regret, je pourrai réinsérer ce qui manque. Là, ce matin, j'ai commencé en travaillant sur mon chapitre 14, qui a presque atteint les 12 000 signes. Je crois que je suis à 13 100, un truc comme ça. Donc là, c'est pas mal. Et je suis passée au chapitre suivant, qui faisait près de 18 000 signes, il me semble. Donc ça me faisait un sacré travail de réduction à faire. J'ai fait un premier passage qui l'a emmené à 17 000 signes. Ça m'en fait toujours 5 000 de trop, mais c'est déjà beaucoup mieux. En plus, je suis assez contente de moi parce que je trouve que ces chapitres sont plutôt bien réussis. C'est de la fiction pure, c'est pas du tout inspiré de choses que j'ai vécues. Je crois vraiment que je m'en sors mieux avec la fiction pure. Hein. Il va falloir que je m'écoute à ce niveau-là. Et ils marchent bien, ils sont très incarnés, ils disent exactement ce que j'ai envie de dire. Ça fonctionne. Je vais même pouvoir rajouter un fil narratif pour lequel j'avais pas trouvé de place jusqu'à présent. Je suis plutôt assez contente de moi ces jours-ci. Et j'essaye d'accélérer le travail parce que le but, c'est d'avoir à peu près tout relu, réduit au maximum mes chapitres, jusqu'à l'envoi de mon texte en bêta lecture. Le fait de savoir que je vais faire lire mon roman me permet aussi d'être beaucoup plus vigilante par rapport à ce que je mets dedans. Comme avec mon déménagement, j'ai 10 000 autres trucs à faire, je ne me fais plus que des séances de 2h, 2h30 tous les matins. Là, par exemple, j'ai commencé à 6h30, je termine, il est 9h, je peux pas faire beaucoup plus. J'ai eu le temps de retravailler sur deux chapitres, surtout pour les raccourcir. Ces deux chapitres que j'ai écrits récemment, que j'avais retravaillés récemment, ils me plaisent bien comme ils sont aujourd'hui. Ça correspond beaucoup plus à ce que j'ai envie de faire avec ce texte. Je me dis que si tout est écrit de cette façon, moi ça me convient. Par rapport à mon rétro-planning, je suis dans les temps. Avec ma pause d'un mois, je pense être en mesure d'envoyer mon texte vers mi-février. Envoyer mon texte au diagnostic éditorial qui est compris dans l'atelier d'écriture auquel j'ai souscrit. Considérant ça, je suis encore dans les temps par rapport au planning que je m'étais fixé, c'est-à-dire que je me suis donné jusqu'à mi-mars pour terminer ce texte, en passant outre le retour du diagnostic éditorial. Parce que peut-être qu'à son retour, je devrais retravailler des choses. Mais j'espère l'envoyer à un stade assez abouti pour que derrière, je n'ai pas trop de choses à retravailler. Il y a une des personnes de l'école qui a fait le même atelier que moi, qui a envoyé son texte au diagnostic éditorial. Et le résultat fait que l'école lui a proposé de la mettre directement en relation avec les maisons d'édition parce qu'il considérait que son texte était abouti. Alors, je suis pas sûre qu'ils me proposent la même chose. Enfin, je suis même quasiment sûre qu'ils me proposeront pas la même chose. J'attends pas ça. Mais ça veut dire que ce diagnostic peut aussi être là pour confirmer qu'on est sur la bonne voie et qu'il y a plus grand chose à faire sur son texte. J'ai terminé aussi la bêta lecture d'une autre élève de l'école. Ça m'a vraiment beaucoup aidée sur mon propre texte. J'ai compris qu'elle avait un peu les mêmes défauts que moi j'ai pu avoir dans l'Inde de Souraj et que j'ai essayé de corriger avec l'essai comique, mais en tombant dans L'extrême inverse, c'est-à-dire que dans l'Inde de Souraj, je voulais tout mettre, je développais absolument tout, je prenais trop le lecteur par la main, et dans l'essai comique, j'ai voulu aller vite, être synthétique, mais ce qui fait que je n'incarnais plus les choses. Donc là, en le retravaillant, j'essaye de trouver le juste milieu, c'est pas évident, surtout de retravailler un texte qui a été écrit d'une certaine façon, mais bon, je m'en sors quand même, vu là les deux derniers chapitres sur lesquels j'ai travaillé ce matin, je me rends compte que j'y arrive plutôt bien.
Le jeudi 7 décembre 2023, j'ai fini la relecture de tout mon texte et la correction. Bon, j'ai un peu bâclé les derniers chapitres parce que il faut que je termine ça pour l'envoyer en bêta lecture avant dimanche ou mardi. Mais en même temps, de lundi à mercredi de la semaine prochaine, je ne sais pas à quel point j'aurai le temps de travailler sur mon texte parce que j'ai le deuxième module de ma formation de biographe. Ce qui fait que si j'ai le temps d'écrire, ça sera pas plus d'une heure. Et le temps d'envoyer mon texte en bêta lecture, je pense que ça va me prendre au moins toute la séance du mercredi, voire même peut-être un peu celle du mardi. Je pense qu'il faut que je commence à l'envoyer mardi. Parce que après mercredi, si j'ai pas le temps de l'envoyer à tout le monde, je pourrais pas le faire à un autre moment. Parce qu'ensuite, je pars en voyage dans un autre pays. Donc là, je règle les problèmes les plus gros. La question que je me pose aujourd'hui, c'est par rapport à ma fin. Est-ce qu'elle n'est pas toujours un peu trop abrupte ? Je sais pas si ce texte se termine un peu en queue de poisson. Comme moi je sais qu'il va y avoir une suite, j'ai du mal à vraiment conclure cette histoire comme s'il n'y avait pas de suite. C'est là où c'est un peu perturbant parce qu'un lecteur, il faut qu'il ait la sensation d'un récit terminé. Il faut que je lise des fins de romans pour voir un petit peu comment les autres auteurs s'y prennent pour terminer leur texte. Ça va être aussi une des questions à mes bêta-lecteurs. J'ai 3 bêta-lecteurs, même peut-être 4, mais le 4e bêta-lecteur, je me dis que je pourrais peut-être le garder pour une prochaine étape, quand mon texte sera plus avancé. Mais en même temps, peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine étape avant l'envoi en maison d'édition, parce que là, je fais appel à une première bêta-lecture, enfin, c'est plutôt 3e bêta-lecture de 3 personnes différentes. Après ce retour de bêta-lecture, le but, c'est de retravailler mon texte en fonction des retours que j'ai reçus et ensuite de l'envoyer au diagnostic éditorial. Je vais sans doute encore avoir des retours du diagnostic éditorial qui me précisera un petit peu les choses à retravailler. Donc après, il va falloir que je retravaille encore mon texte et peut-être qu'il faudra que je le repasse une dernière fois en bêta lecture, un peaufinage final. J'ai aussi très peur de partager ce texte parce que je suis pas du tout en confiance dessus. C'est bizarre parce que j'étais beaucoup plus en confiance sur l'Inde de Souraj, même encore aujourd'hui, hein, alors qu'il a plein de défauts. Alors que celui-là, je marche sur des œufs à chaque fois qu'il faut que je partage avec les uns et les autres, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est très léger, que on va pas comprendre pourquoi je mets tant de cœur à l'ouvrage, pourquoi je l'y tiens tellement. Voilà, bon. Des fois, il y a des choses qui sont très importantes pour nous, mais difficilement partageable, on va dire, je sais pas si ça se dit. On verra bien, ce sera peut-être pas encore avec ce texte que je serai publié. Mais bon, si j'arrive à gagner ma vie en étant biographe, la pression d'une publication retombe, même si je sais très bien que c'est pas une publication qui va me faire vivre, hein. J'ai bien conscience de la rémunération des auteurs, etc. Je me fais pas du tout des plans sur la comète, mais disons que le fait de publier un livre et d'avoir un petit revenu avec ça... Quand je parle de petits revenus, j'imagine que c'est pas plus de 2 000 € pour la publication d'un seul livre, alors que ça fait plus d'un an que je suis dessus. Alors, en l'occurrence, pas autant, hein, pour l'essai comique, j'ai à peu près 8 mois de travail à temps complet. Pour être payé 2 000 €, c'est beaucoup. Mais disons que ça me fait mettre un pied dans le domaine professionnel. De toute façon, il faut vraiment que je trouve une activité parallèle qui me permette de gagner ma vie de façon plus pérenne et plus sereine à côté de l'écriture. Je ne peux pas faire reposer mes revenus sur l'écriture de mes romans. Je me mets déjà trop de pression sur les épaules juste pour arriver à aller jusqu'au bout, à les envoyer en maison d'édition dans l'espoir qu'ils soient publiés un jour. J'ai pas envie de me rajouter une pression supplémentaire en faisant reposer mes revenus dessus, surtout que ça serait beaucoup trop précoce dans, entre guillemets, ma carrière d'écrivain, hein, qui n'a pas encore commencé. Généralement, quand on décide de vivre de sa plume, c'est qu'on a déjà généré des revenus de sa plume. Mais bon, moi, c'est ce que je dis, hein, j'ai pas besoin d'avoir des revenus énormes, surtout au démarrage. Je peux très bien me contenter de 1 000 € par mois, dans un premier temps, évidemment, ça peut pas être durable
cette situation. Mais en tous les cas, dans un premier temps, moi, je m'en sortirais très bien avec 1 000 euros par mois. Et ensuite, le but, ça serait d'augmenter ses revenus. Donc, je ne suis pas hyper exigeante. D'ailleurs, c'est un de mes objectifs de l'année 2024, générer 1 000 euros de revenus tous les mois, au minimum, avec l'écriture. Donc, ça peut être par n'importe quel biais, hein, par le biais de la biographie, le biais du scénario, de l'écriture de romans, l'animation d'ateliers d'écriture, toutes ces choses-là. Même si pour le moment, j'ai pas mis beaucoup de choses en place pour y parvenir, à part ma formation de biographe qui va prendre fin en juin prochain. Donc, il faudrait que je commence à trouver des clients à partir de juin prochain. Donc, il va falloir que je m'occupe de mon site internet dès janvier 2024. Parce que le but, c'est de commencer à prospecter à partir de février-mars, même si j'ai pas terminé ma formation. J'en saurai un peu plus à ce niveau-là, j'aurai l'esprit déjà beaucoup plus clair par rapport à la posture de biographe que je veux adopter. J'aurai déjà bien avancé sur la biographie que je suis en train de réaliser et j'aurai sans doute déjà un peu des outils pour pouvoir proposer cette activité au grand public. Sachant que si je fais cette formation, c'est pour obtenir une méthode, mais il y a beaucoup de biographes qui se lancent dans le métier sans forcément être formé. Hein. Le vendredi 8 décembre 2023, je crois que je viens de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à la dramaturgie en écoutant un épisode du podcast « Il y a plus de papier » qui s'adresse plus à des scénaristes mais qui peut concerner tous les raconteurs d'histoires. Je le trouve passionnant ce podcast, animé par deux scénaristes très sympathiques. Enfin, franchement, j'adore le concept de ce podcast qui est très bien fait et très bien mené. Les entretiens sont menés de façon très professionnelle. On apprend plein de choses, ça fait réfléchir à plein d'autres trucs. Alors, il y a des épisodes qui sont un peu plus en dessous, mais parce que c'est des sujets qui m'intéressent moins, mais dans ces cas-là, je zappe. Je suis étonnée d'ailleurs de le découvrir seulement maintenant, ce podcast, puisqu'il est un peu vieux, mais je suis éberluée d'apprendre tout ce que j'apprends dans ce podcast. Et aujourd'hui, en écoutant un épisode, j'ai cru comprendre qu'il y avait incident déclencheur et élément événement déclencheur, et que ce n'était pas la même chose. En gros, l'incident déclencheur, c'est quelque chose qui peut arriver avant l'histoire, et c'est ce qui déclenche la nécessité du personnage. Donc par exemple, si je prends dans l'Inde de Souraj, l'incident déclencheur, c'est quelque chose qui se passe avant le début de mon roman, qui pousse Olivia à partir en Inde pour réaliser ce documentaire. Donc c'est d'ailleurs autour de cette problématique que je me prends la tête parce que je ne sais toujours pas quel est l'incident déclencheur. Et ensuite, l'élément ou l'événement déclencheur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du récit et qui va entraîner l'histoire et qui va être le démarrage de l'histoire que je raconte. Donc par exemple, l'événement déclencheur dans l'Inde de Souraj, c'est la rencontre avec Souraj, qui d'un coup va l'orienter dans une autre direction. Alors souvent, les deux sont combinés. Enfin, moi, j'avais toujours pensé qu'il n'y avait qu'un seul incident déclencheur, événement déclencheur, élément déclencheur. Pour moi, c'était la même chose. Mais en fait, on peut faire... Enfin, si j'ai bien compris, hein, toujours, hein, je vous dis des choses, mais c'est par rapport à mes compréhensions actuelles des choses. Il peut y avoir un incident déclencheur et un événement déclencheur, ce qui n'est pas forcément la même chose. Est-ce que vous, ça vous parle, cette notion d'incident déclencheur, d'événement déclencheur ? Est-ce que vous feriez une distinction ? Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique dans vos propres textes ? Parce que moi, jusqu'à présent, je me prends beaucoup la tête dans l'Inde de Souraj par rapport à cet élément-là, parce que au départ, il apparaissait pas dans mon texte. Donc je me disais, non, moi j'ai envie que mon texte, il démarre quand Olivia arrive en Inde. Et puis ce qui me prenait la tête, c'est que je me dis, oui, mais dans ces cas-là, il est où l'incident déclencheur ? Est-ce que l'incident déclencheur peut avoir eu lieu avant l'histoire ? Alors, en regardant... le livre « La dramaturgie » d'Yves Lavandier, j'ai découvert qu'en effet, c'était possible. Mais après, je me suis aperçue que j'avais pas vraiment d'enjeu autour de cet incident déclencheur. Donc, quelle était la nécessité de mon personnage ? Je suis assez contente de ma séance matinale. J'appréhende un peu parce que là, j'ai un rendez-vous avec ma binôme d'écriture. J'appréhende toujours un petit peu maintenant parce que je sais que je ressors pas forcément en super forme de ces rendez-vous. Je me dis peut-être qu'il faudrait que j'arrête. C'est peut-être pas une bonne chose de travailler avec quelqu'un qui
n'aime pas trop ce que vous faites, en tous les cas qui n'est pas intéressé par la problématique que vous abordez. Et puis en même temps, je trouve que nos échanges restent riches. Moi, de travailler sur son texte, ça m'apporte aussi des choses personnellement. D'apprendre à lui faire des retours, d'avoir un rendez-vous régulier pour parler d'écriture avec quelqu'un, ça, ce sont des choses qui me nourrissent beaucoup. Et puis, toutes les séances ne sont pas conclues en déprime non plus. Elle m'a dit énormément de choses pertinentes. Comme elle a l'esprit synthétique, elle voit tout de suite un peu les lourdeurs ou les longueurs de mes phrases. La seule chose qui bloque un peu et qui me fait me poser des questions, c'est le fait qu'elle n'est pas très intéressée par la problématique de mon roman. Et ça, c'est tout à fait subjectif et personnel. Je pense que quand on fait des retours à quelqu'un, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, ça. On peut être intéressé plus ou moins par des sujets, mais moi, ce qui m'intéresse quand je lis un livre et quand je fais des retours sur un livre, c'est pas tant le sujet. Alors même si évidemment, ça rajoute un plus si en plus le sujet me plaît, mais c'est la manière dont il est raconté qui va m'intéresser. De toute façon, n'importe quel sujet, en fonction de la façon dont il est raconté, peut m'intéresser. Je me suis rendu compte, par exemple, que je suis pas une très grande fan des livres de Bernard Werber. Quand je l'avais découvert, je sais pas, j'avais entre 15 et 20 ans, je sais plus exactement, j'étais très jeune, avec le premier livre que j'avais lu de lui, c'était L'Empire des Anges. Celui-là, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais adoré par rapport à l'originalité de son propos. J'avais trouvé son idée géniale et j'avais vraiment plongé dans son livre très très bien. Je l'ai relu dernièrement avec les Thanatonautes et j'ai beaucoup moins aimé. Je trouve que ses personnages ne sont pas très profonds, caricaturaux, que en fait, il trouve des high concepts, et puis derrière, au niveau de la psychologie des personnages, c'est pas où se situe sa force, on va dire. Sa grande force, c'est dans son imagination et dans la construction de ses récits. Et là, en ce moment, je suis en train de lire ses mémoires, Mémoires d'une fourmi. Et là, je suis touchée. Je suis touchée par cet homme en tant qu'homme, et en tant qu'écrivain aussi, mais plus en tant que personne. Alors bon, il m'avait vendu le texte en me disant, parce que je lui ai acheté à un salon du livre où il était présent, j'avais pas du tout prévu d'acheter quoi que ce soit de lui, quoi, surtout que je venais juste de lire Les Thanatonautes et j'avais pas non plus été emballée. Mais j'ai rapidement discuté avec lui lors d'une séance de dédicace et il m'a affirmé que son livre était un peu comme les mémoires de Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier. Donc je me suis dit que j'allais apprendre plein de choses sur l'écriture, bon... Franchement, au niveau de l'écriture, ça reste quand même très sommaire. C'est des conseils pour les débutantes chez débutants. Personnellement, ça m'apporte rien. Par contre, là où ça m'apporte quelque chose, c'est au niveau de sa philosophie de vie. Là, c'est très intéressant. Et puis même au niveau de son parcours de vie. En tant que biographe, ça, ça m'intéresse aussi. Je me considère déjà comme biographe alors que je n'ai pas encore fini ma formation. Mais vraiment, je me sens bien avec cette posture-là. Donc, j'ai pas tellement de mal à dire que je suis biographe. Aujourd'hui, c'est ce que je dis quand on me demande ce que je fais comme travail. Super rendez-vous avec ma binôme. Je viens juste de raccrocher. Bon, finalement, à chaque fois, on déborde largement du temps qu'on s'était fixé à la base. On a passé plus de 2h30 au téléphone. Ça nous aide toutes les deux. Et... moi, ça m'aide autant quand elle me fait des retours sur mon propre texte que quand je lui fais des retours sur le sien. Parce que du coup, on est toutes les deux confrontées à des problématiques différentes dont on discute ensemble et on essaye de trouver d'autres façons de faire. Ça me fait énormément travailler sur mon écriture en tant que telle, quoi. Je suis super contente de ce rendez-vous en particulier. En fait, j'ai plutôt des bons retours quand mon texte est clair. Là, c'était deux chapitres, c'était mon chapitre 9 et mon chapitre 10, qui sont deux chapitres plutôt bien incarnés, sur lesquels elle m'a fait des retours. Alors le chapitre 10, il est un peu plus complexe que le 9. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, dont des trucs peut-être pas très clairs. J'ai fait peut-être des associations d'idées qui ne marchent pas. L'enchaînement des choses n'est pas forcément logique. En tous les cas, il y a eu vraiment un truc qui ne lui a pas paru logique du tout. Je comprenais pas ce qu'elle comprenait pas, elle n'arrivait pas à m'expliquer, mais il y avait un truc qui la gênait terriblement. Elle a beaucoup aimé mon chapitre 9, qui est ce chapitre que je n'arrête pas d'enlever et de remettre parce que je l'aime bien, mais en même temps, il y a un personnage qui prend beaucoup d'importance dans ce chapitre, alors que dans le roman, il a pas tellement d'importance. Ça l'a pas gênée qu'il débarque comme ça dans l'histoire à ce moment-là, mais elle s'est imaginé qu'il allait avoir une place dans la suite de mon récit, ce qui n'est pas le cas. Et c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que d'un coup, je lui fais une petite place qu'il ne va finalement pas occuper. Ça, ça me gêne beaucoup que les personnages ne soient que fonctionnels. De nouveau, la question de ce personnage revient sur le devant de la scène. Comment je pourrais l'intégrer mieux à mon récit ? Je vais peut-être retravailler sur lui.
Mais pas ces prochains jours, parce que là, je vais pas avoir le temps. Ça, on verra pour la prochaine réécriture. Je vais voir déjà ce que mes bêta-lecteurs en pensent de ce personnage. C'est une question que je vais leur poser. Ce qui ressort de cet entretien, c'est que quand même, depuis que je réduis mes chapitres à 12 000 signes, ils sont beaucoup plus agréables à lire, beaucoup plus clairs qu'avant. Je noie plus mon lecteur sous une myriade de détails dont il n'a rien à faire. Et ça soulage énormément la lecture, quoi. Ça, c'est une belle réussite. Si l'atelier n'a servi qu'à une chose, c'est à celle-là. À comprendre comment je pouvais réduire mon texte. Et puis, bah, plus je le fais, plus c'est une espèce de mécanique bien rodée qui se met en place et ça me paraît beaucoup moins effrayant aujourd'hui de réduire mes chapitres à 12 000 signes. Quand j'arrive plus à enlever du gras, ça veut dire que là, j'en suis à leur forme la plus pure. Alors, peut-être qu'il me faut plus de passages que la plupart des auteurs pour faire ce travail-là. C'est ma façon d'être. À la limite, pourquoi pas, hein ? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.